Sommaire de l'émission ce 5 décembre, en direct jusqu'à 13h, le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Et puis le débat du week-end, qu'est-ce qu'une nation ? Vieille question est toujours d'actualité. Hier, Emmanuel Macron la définissait par la langue des ordonnances de Villers-Cotterêts. Il la définissait aussi par l'État qui, je cite le président de la République, a progressivement structuré un cadre, les lois, et il ajoutait l'histoire, mais une histoire qui n'est pas figée, qui vient de tous les continents. Alors qu'est-ce qu'une nation ? C'est aussi le titre d'un essai passionnant que publie l'historien Pascal Horry chez Gallimard. Lui qui travaille sur ce sujet depuis maintenant 40 ans, nous avons rendez-vous avec Pascal Horry dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face.
Le duel, Natacha Polony, Gilles Finkelstein, bonjour à vous deux. On va commencer directement. Ce qu'on a entendu, c'était surbrut.
Nos échecs, c'est le ressentiment qui est né dans une partie de la population, pour des raisons culturelles, historiques, c'est-à-dire l'échec de l'intégration à la française. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Et on a laissé à beaucoup de nos jeunes et moins jeunes l'idée qu'ils n'étaient pas une part de France. Et là-dessus, celles et ceux qui ont ce projet-là viennent les chercher en disant « C'est vrai, t'es pas une part de France.
Et justement,
Viens retrouver mon projet. Et juste pour finir, il y a ensuite le ressentiment économique et social. Ces discriminations à l'embauche, au logement, elles nourrissent ce ressentiment.
Voilà, dans quelques jours, le 9 décembre, on aura le projet de loi sur les séparatismes qui doit être présenté en Conseil des ministres. On vient donc d'entendre Emmanuel Macron, c'était hier sur le Média Brut, une interview de fleuve de plus de 2 heures. Un média choisi pour parler spécifiquement aux jeunes. Il y a eu de nombreuses thématiques, Gilles Finkelstein. Il y a eu la laïcité, l'identité, l'écologie, la crise sanitaire, les violences policières. De tout ce jeu de questions-réponses en direct, que retenez-vous ?
Bonjour à tous. Écoutez, Emmanuel Macron a, comme souvent dans ce type d'exercice, montré à la fois sa maîtrise des dossiers et puis son engagement, ses convictions. Il a, pour la première fois, prononcé le mot de violence policière auquel il se refusait. Et il a dit au sujet de cette fameuse loi sur la sécurité globale et sur ce fameux article 24 qu'il fallait lui laisser vivre sa vie parlementaire, ce que l'on pourrait traduire par « il faut organiser lentement sa mort », c'est-à-dire organiser son recul. Et ce à quoi on assiste depuis maintenant plus d'une semaine, c'est un recul, et je dirais un recul qui n'est même pas un recul en bon ordre. Et les dommages pour le président de la République, et je dirais même au-delà du président de la République, les dommages pour le pays me paraissent à ce stade relativement lourds. Cet article de loi et cette loi a provoqué une mobilisation d'une partie importante de l'opinion. On l'a vu la semaine dernière dans les manifestations. Ça créer un désordre à l'intérieur, un désordre politique à l'intérieur même de la majorité, à la fois entre le groupe parlementaire et le gouvernement, à l'intérieur même du gouvernement.
Est-ce qu'on rappelle à ce stade quand même, Gilles, parce qu'on l'a pas dit, l'essence de cet article 24? Il faut quand même toujours le...
Bien sûr. L'article 24 est l'article qui prévoit les modalités selon lesquelles peuvent être diffusées les images d'un policier. Et notamment qui prévoit que lorsque il est considéré que ces images sont à des fins malveillantes et qu'elles mettent en danger la sécurité des policiers, elles soient poursuivies et avec une peine de prison qui est une peine de prison de Londres. Donc il y a eu tout ça et il y a eu un dernier élément qui est lourd aussi, il y a eu une forme d'administration d'une leçon de droit constitutionnel, à la fois par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, lorsque il a été question que cet article soit réécrit. Donc ça, ce sont des dommages qui sont lourds. En même temps, si on veut être plus nuancé, l'opinion, je crois, regarde ça d'une oreille pour partie distraite, parce que l'actualité est extrêmement lourde sur beaucoup de sujets, même si les violences policières, notamment l'affaire de Michel Zecler, a été vue et je crois a provoqué une émotion extrêmement, extrêmement forte. Je termine d'un mot, je crois que ça c'est cette espèce d'équilibre, mais que il y a quelque chose de lourd qui s'est joué, et pour la France, et pour le président de la République, sur lequel je crois qu'on pourra revenir.
Natacha Polony, bonjour Natacha.
Bonjour.
Vous
Je rejoins l'idée de Gilles selon laquelle
il y aura des conséquences que nous ne mesurons pas encore. Alors, pour revenir d'abord sur l'entretien, l'interview d'Emmanuel Macron à Brut, je pense que ce qui est frappant surtout, c'est à quel point Emmanuel Macron essayait de renouer avec la promesse de sa campagne. Moi, c'est ça que j'ai entendu. C'est un président qui essayait de retrouver ce qui avait fait l'intérêt de sa campagne, puisqu'il y avait des choses extrêmement intéressantes dans cette démarche qui consistait à dire on va essayer de trouver un juste équilibre, une forme, ce qu'on a baptisé par ce terme en même temps, mais cette idée qu'on était capable à la fois de défendre une vision commune de la République, même si Emmanuel Macron à l'époque n'insistait pas beaucoup là-dessus, mais en même temps expliquer à des jeunes gens que le ressentiment par rapport à l'histoire coloniale devait être pensée, qu'il ne fallait surtout pas mettre cela sous le boisseau, le fait qu'il fallait être capable à la fois de défendre l'institution républicaine qu'est la police et reconnaître qu'il y avait des éléments qui ne pouvaient pas demeurer en l'état. Je retrouve cette tentative d'un en même temps non caricatural qui serait en fait la juste mesure. A-t-il été efficace? C'est toute la question. C'est-à-dire que derrière cette tentative, il y a l'idée qu'on pourrait effacer les erreurs par une nouvelle promesse. Et ça va être sans doute tout son objet dans les mois qui viennent, à l'approche de 2022. Est-ce possible? Je ne sais pas, dans la mesure où justement, et je rejoins Gilles là-dessus, la gestion de cette loi sécurité globale et de ce fameux article 24 met le doigt sur toutes les carences du macronisme. Il y a en effet une sorte d'incompréhension des mécanismes institutionnels de la démocratie française qui est assez frappant dans cette histoire. C'est-à-dire que certains ont pu parler comme Jean-Louis Debré d'amateurisme, de manque de professionnalisme. Il y a la révélation que le fait qu'Emmanuel Macron n'ait jamais eu de mandat parlementaire lui donne une vision de la République qui est, j'allais dire, éminemment monarchique et qui ne comprend pas quel est le rôle exact du législateur. Ce qui est tout de même gênant dans une démocratie qui est censée organiser la séparation des pouvoirs. Et je pense que ça risque en effet de se payer cher parce que derrière, il y a justement toute l'incapacité d'Emmanuel Macron à prendre la mesure de la crise démocratique que nous vivons aujourd'hui.
Donc Natacha qui entend à la fois le retour du en même temps dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais aussi la révélation d'une carence sur le plan institutionnel, Jean Finkelstein, qu'en pensez-vous?
Oui, Natacha se demande, est-ce qu'il est possible pour le président de la République d'effacer cette séquence? Ce qui est frappant dans ce retour du en même temps, c'est qu'on voit qu'il en ressent la nécessité, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant, il y a des risques collatéraux qui peuvent être des risques collatéraux durables. C'est vrai, pour la France, pour l'image de la France à l'extérieur, on a vu la manière dont un certain nombre de médias ou de responsables politiques étrangers se sont saisis de ces événements. C'est vrai de l'image de la France à l'intérieur et notamment des relations entre la police et les citoyens. J'ai été très frappé de l'enquête qui a été publiée par l'IFOP cette semaine dans laquelle on voit qu'il y a aujourd'hui presque autant de Français qui ont confiance en la police que de Français qui éprouvent de l'inquiétude vis-à-vis d'elle, avec une évolution de 11 points d'inquiétude supplémentaire et de 8 points de confiance en moins en l'espace d'un mois. Donc ce sont des mouvements qui sont absolument considérables. Et puis, il y a des dommages collatéraux pour Emmanuel Macron lui-même, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a essayé de rectifier. Je crois que ce qui est en jeu avec cette affaire, c'est à la fois la compétence technique. On voit à quel point cette loi, cette proposition de loi a été mal écrite, même si on parlait des questions institutionnelles tout à l'heure. De manière rigoureuse, ce n'est pas un projet de loi qui est issu du gouvernement, mais une proposition de loi qui vient du Parlement. Mais personne ne peut penser que le gouvernement n'a pas eu son mot à dire sur ce texte. Et puis, c'est son autorité politique qui est en jeu aussi dans cette affaire. Et enfin, c'est son identité idéologique, savoir de quel côté il va finir par tomber.
Allez, l'actualité, le débat continue, changement de thème.
France Inter, le grand face-à-face, Le duel.
Moi, j'ai une proposition. C'est une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays membres de la zone euro et un rachat massif par la Banque Centrale Européenne qui donc ne spoliera personne et qui peut être parfaitement annulé car la Banque des règlements internationaux, qui est la Banque Centrale des banques centrales aujourd'hui, recommande cette solution pour pouvoir détruire en quelque sorte de la monnaie. Moi, je proposerai un contrat de réinvestissement dans la reconstruction écologique de l'agriculture et de l'industrie.
Voilà, Arnaud Bondebourg qui était l'invité du grand rendez-vous dimanche sur Europe 1, c'était le 22 novembre. L'ancien ministre Natacha Polony, l'ancien ministre Bondebourg propose d'annuler la dette de la France, vous l'avez entendu, afin de redresser l'économie européenne.
Alors d'annuler la dette Covid, c'est-à-dire la dette générée par le coronavirus. Mais le débat en fait est éminemment intéressant et en même temps fondamental. Pourquoi? Parce que cette question de la dette est en train de ressurgir. Finalement, depuis 2-3 ans à peu près, la baisse des taux d'intérêt faisait que cette obsession du problème de la dette avait un tout petit peu reculé et on était plutôt sur la question de l'investissement, comment on allait faire pour recréer de la croissance, réinvestir dans les domaines essentiels. Et là, même si les taux d'intérêt ne réaugmentent pas, cette dette a atteint un tel degré à cause du coronavirus que le sujet ressurgit, et c'est pas un hasard si Bruno Le Maire a expliqué la semaine dernière, là aussi dans un nouveau pataquès gouvernemental assez énorme, a expliqué qu'il fallait remettre sur le tapis la réforme des retraites, que c'était une priorité absolue, et il l'expliquait par la dette, la question de la dette. Sauf que, alors, les propositions d'Arnaud Montebourg sont extrêmement intéressantes et sa vision de l'idée de réinvestir systématiquement, de pousser l'agriculture, l'industrie, tout cela, on peut y adhérer à ceci près, qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que annoncer qu'on annule une dette, c'est une fragilisation du système qui peut être extrêmement dangereuse parce que justement ça peut entraîner immédiatement une hausse des taux d'intérêt et cette fois une véritable crise financière. Dans un sens, je vais vous dire, la dette, c'est quelque chose, enfin, sur lequel il faut être parfois hypocrite politiquement. C'est-à-dire que quand on veut annuler une dette, on ne le dit surtout pas. Et il y a eu des histoires de défauts de dette, il y a différentes façons de rendre cette dette indolore. On voit d'ailleurs que la France enfin se met à convertir une part de sa dette sur le long terme et je pense qu'il faudrait amplifier ce phénomène. Tant qu'on rembourse les intérêts de la dette elle-même, on sait très bien qu'on la remboursera pas. Mais ça ne se dit pas. Et je pense que derrière, il y a tout un problème sur lequel, en revanche, il va falloir se pencher, qui est la nature même du néolibéralisme comme système capitaliste fondé sur la dette. Parce que la dette est au cœur de ce système dans la mesure où la sphère financière est devenue une industrie dont le but est de générer de la plus-value à partir justement du crédit et des dettes. Donc c'est tout cela qu'il va falloir remettre en cause parce qu'on s'aperçoit que on aboutit à un système où on a des États obèses, des États qui sont prisonniers de cette dette et qui sont donc obèses mais impuissants, incapables d'assurer leur mission. Et c'est ça que la crise Covid a mis en lumière, c'est-à-dire qu'on fait de la dette parce que c'était nécessaire, en France on l'a fait, pour assurer la survie de la sphère privée. En revanche, ça ligote l'État dans ses missions et c'est tout cela qu'il va falloir aujourd'hui penser pour l'avenir.
Alors la dette, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise dette? Qu'allons-nous en faire? Est-ce que c'est possible de l'annuler ou est-ce que, comme dit Natacha, en tout cas, faut surtout être hypocrite là-dessus, sinon ça ferait peur aux investisseurs. Et est-ce que ça remet en cause le cœur du système capitaliste, Gilles Finkelstein?
Alors, je vais être moins nuancé peut-être pour une fois que Natacha Polony. Je pense que c'est une mauvaise idée que de prôner l'annulation de la dette, comme vient de le faire Arnaud Montebourg, après d'autres. Hein, Jean-Luc Mélenchon lui-même avait porté ça, et c'est un débat d'ailleurs légitime chez les économistes.
La dette Covid, on est bien d'accord, on ne parle que de ça. Là,
alors,
hein,
on parle de la dette Covid, et on parle de la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne.
C'est important.
Tout ça représente malgré tout 20% de la dette française. L'idée qui est derrière ça, c'est que nous n'avons collectivement aucune responsabilité, je reprends les termes d'Arnaud Montebourg, dans l'émission de cette dette, qu'elle est aujourd'hui excessive, qu'elle va peser sur la croissance et que donc on peut l'annuler et on peut l'annuler sans dommage. Pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée? Je crois que c'est à la fois un risque européen. La France se retrouverait au moment même où l'Union européenne est en train d'évoluer, au moment même où, après des années et des années de débats et de combats, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un endettement commun. À ce moment-là, on vient porter le débat sur un sujet dont on sait que non seulement les Allemands, mais la plupart des autres pays, et peut-être même la quasi-totalité des autres pays, y sont opposés. Donc d'abord, un risque européen. Il y a ensuite, je crois, pour ceux qui le porteraient et qui sont aujourd'hui une partie de la gauche, je crois un risque électoral. Contrairement à l'intuition qu'ils peuvent avoir, ce que je crois, c'est que c'est une proposition qui, loin de rassurer, inquiéterait de la même manière ou de manière symétrique que la proposition de sortir de l'euro a inquiété l'électorat. Oui, bien sûr. C'est parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement d'annuler la dette? Et si on annule la dette, qu'est-ce qui se passe? Bon. Cela, j'utilise des arguments qui sont des arguments, on va dire, des arguments de raison, des arguments de crédibilité, mais quand on est candidat à une élection présidentielle, la crédibilité, c'est pas totalement secondaire. Mais j'ajouterai un autre élément et un dernier élément en partant non pas de cet élément de raison ou de mesure, mais de la radicalité. S'il y a besoin d'avoir de la radicalité dans une période qui n'est pas une période comme les autres, quelle est la bonne radicalité? C'est celle qui porte sur le sujet central. Le sujet central, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et je ne vois pas comment on peut dire en même temps on va avoir besoin de dizaines, de centaines de milliards d'euros à investir dans la lutte contre le changement climatique, mais vous allez rire, dans le même moment, on propose de ne pas payer la dette. Et donc faire les deux en même temps, ça me semble totalement incohérent. Et donc je pense que c'est une mauvaise idée, je pense qu'il y a beaucoup de choses intelligentes à faire sur la dette, on pourra y revenir peut-être, mais que être sur la ligne de l'annulation, ça me paraît très dangereux.
Natacha Polony.
Non mais ça s'explique, ce discours de l'annulation, tout à fait. Enfin, il faut quand même regarder dans l'histoire. La France est un des rares pays à avoir toujours payé ses dettes rubis sur l'ongle, notamment ses dettes de guerre. C'est-à-dire que la France a été saignée après 1870 par l'Allemagne et elle a remboursé, elle a tout payé en 2 ans au lieu de 3 ans. On ne peut pas en dire autant de l'Allemagne, qui justement doit aussi une part de sa prospérité actuelle au fait qu'elle a fait défaut. Et c'est bien ce point-là qui est essentiel. Il est nécessaire tout de même de ne pas sacraliser la dette et de réfléchir en termes historiques. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a différentes manières de régler ce problème de dette. Il y aurait une possibilité intéressante qui serait la création monétaire au sein de chaque, sans remettre en cause ce que je comprends parfaitement de la part de Gilles, sans remettre en cause ce nouveau dispositif européen qui permet en effet un début d'intégration monétaire, budgétaire, etc. Très bien. Simplement, on peut demander aux banques centrales des différents pays de produire de la monnaie en lien avec la Banque Centrale Européenne. Il y a des dispositifs qui permettraient donc de créer de la monnaie et de faire en sorte petit à petit de rendre cette dette indolore. Il y a une manière, on appelait ça autrefois euthanasier les épargnants, c'est-à-dire de créer de l'inflation qui rend cette dette moins douloureuse, c'est-à-dire qu'il a fait peser moins sur les jeunes générations et plus sur ceux qui possèdent déjà du patrimoine, sur ce qu'on appelle les rentiers. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre en place. Ça ne se fera évidemment qu'en tenant compte d'abord de la psychologie collective, c'est-à-dire du fait qu'on ne proclame pas des choses sans penser aux effets, aux dommages collatéraux que ça aura sur les marchés, en effet dans la tête de tous les citoyens, et je rejoins Gilles sur une chose, c'est-à-dire que ça peut faire peur, et on ne peut réfléchir à ces éléments-là que dans un contexte qui est un contexte de rapport de force au sein de l'Union européenne, puisqu'il y a des visions différentes du problème. Mais il faut avoir en tête ces rapports de force et essayer de peser dans un sens qui peut servir l'économie, notamment l'économie française, et ne pas la couler. Mais de fait, on ne peut pas rester immobile sur ce sujet-là. Il faut répondre aux citoyens qui, actuellement, se posent la question cruciale. Qui va payer? Donc la question, c'est de savoir comment on fait en sorte que ce ne soit pas trop douloureux pour les uns et pas pour les autres, que ça crée de l'inégalité, et surtout, il ne faut surtout pas que ça entrave la possibilité d'investissement, la possibilité pour l'État de répondre aux besoins des citoyens et d'aller dans le sens qui va servir leurs intérêts.
Voilà. Qui va payer, en effet? Alors, Natacha Polony, Finkelstein, elle dit, il y a une solution, on a vu par le passé, c'est l'inflation, en fait, qui grignote la dette, on peut euthanasier les épargnants, et donc elle suggère cette idée de création monétaire par les banques centrales. Qu'en pensez-vous?
Alors, je pense que nous convergeons. C'est-à-dire que on ne peut pas croire que c'est indolore, que personne ne paye et qu'on peut régler et on peut supprimer d'un trait de plume 20% de la dette française. Si on écarte d'un côté l'annulation, si on ne se contente pas d'un autre côté du discours qui est celui aujourd'hui du gouvernement qui dit la dette va être payée par la croissance et des réformes structurelles. Il y a entre les deux, je crois, un chemin à bâtir, dans lequel il y a à la fois une réflexion sur la dette, savoir quand on commence à payer, pendant combien de temps, et il y a beaucoup de marge de manœuvre, de savoir quelles recettes l'Union européenne peut créer comme recettes nouvelles, soit de taxation à l'extérieur sur le CO2, soit sur le numérique, en sorte qu'une partie de cette dette soit payée aussi par l'extérieur. On peut réfléchir, et ça sera évidemment un des thèmes de l'élection présidentielle, savoir si les plus riches contribuent d'une manière ou d'une autre à ce paiement de la dette. Donc, il y a tout un chemin à trouver. Peut-être faudra-t-il aussi, ce que Natacha Polony a dit d'une phrase, monétiser la dette, c'est-à-dire peut-être même la sortir de la Banque Centrale Européenne pour la mettre ailleurs. Tout ça, c'est des débats techniques qui sont des débats légitimes, mais entre l'annulation pure et simple, d'un côté, version Arnaud Montebourg, et le discours du gouvernement, la croissance, on attend tout de la croissance, il y a une position et je crois qu'il y a un chemin.
Natacha Polony, allez, on clôt le sujet dette avec vous d'une phrase, si vous voulez bien.
D'un mot, on peut dessiner la transition vers notre discussion avec Pascal Horry, notamment autour du bilan de Valéry Giscard d'Estaing, parce que on en parlera avec lui, mais la question du financement de l'État auprès de sa banque centrale ou du financement sur les marchés est cruciale. Si le Japon peut avoir une dette aussi importante, c'est parce qu'elle est détenue par les Japonais eux-mêmes. Et la question de savoir donc qui détient la dette, comment elle se finance, est-ce qu'on est dépendant des fluctuations des marchés ou est-ce que les États ont la possibilité de créer de la monnaie pour petit à petit, on va dire, allonger le délai. Ça, c'est une question cruciale. Et ça se joue autour des règles de financement de l'État auprès des banques.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Le grand face-à-face continue avec le troisième thème du duel entre Natacha Polony et Jill Finkelstein. Le cannabis, la commission des stupéfiants des Nations Unies, c'est-à-dire l'organe qui décide quelles substances sont considérées comme des drogues au vu du droit international, a approuvé, c'était mercredi dernier, la reclassification du cannabis et de sa résine dans les conventions internationales, reconnaissant de ce fait, Gilles, son utilité médicale. C'est ça qui s'est passé?
Alors, c'est ça qui s'est passé, et il y a eu dans le même temps une interview de Juan Manuel Santos, l'ancien président colombien, ancien prix Nobel de la paix, dans le Figaro de cette semaine, qui donnait ce chiffre que je crois très, très important. En l'espace de 10 ans, le marché illégal des drogues est passé de 320 milliards de dollars à plus de 500 milliards. On voit l'importance de ce développement. Il s'agit là d'une immense question de société qui touche à la fois des questions de santé publique, des questions de sécurité, des questions économiques dans beaucoup de quartiers et une question de philosophie politique sur laquelle je voudrais m'arrêter. Je crois qu'il n'y a pas un sujet sur lequel l'écart entre la loi et les pratiques sociales soit aussi important. On a une des législations les plus rigoureuses et cette législation n'est aucunement appliquée. Et je pense que cette situation-là ne peut pas durer durablement. On voit que, y compris sur le cannabis thérapeutique, on a de très grandes difficultés à avancer. Quant au débat sur la dépénalisation, c'est un débat qui est un débat absolument tabou. Je pense qu'il faut aujourd'hui le poser. Il y a 15 jours, dans cette émission, on recevait un des meilleurs spécialistes des questions de démocratie participative, Loïc Blondiot, qui avait été un des garants du débat sur la Convention citoyenne sur le climat. Une des questions qu'on se posait avec lui, c'était est-ce que le champ de cette convention citoyenne n'était pas trop large. Eh bien, il y aurait un champ, une question qui serait une question peut-être plus précise, qui pourrait donner lieu à une convention citoyenne si les responsables politiques ne peuvent pas se saisir de cette question, c'est la question de la dépénalisation. Et je crois que ça serait une bonne idée de créer une convention citoyenne sur la question de la dépénalisation. Je crois que la société est bien plus en avance que les responsables politiques sur cette question.
En tout cas, dans ces pratiques, en effet, au regard de la loi. Natacha Polony, Gilles Finkelstein suggère donc une convention citoyenne sur cette question. Qu'en pensez-vous ?
Je pense d'abord que la convention citoyenne, si elle existe, ne doit pas porter sur la dépénalisation, mais sur la légalisation. Je pense que la différence, on va le préciser, dépénaliser, ça reviendrait simplement à expliquer qu'on ne va pas poursuivre les consommateurs et que l'on va arrêter ce système de prohibition, dont on voit en effet, je rejoins Gilles là-dessus, que il ne fonctionne pas, mais à un point qui est totalement dramatique. La légalisation, c'est la création, en fait, d'une filière légale, d'une organisation de tout cela, ce qui est, en fait, très différent. Pourquoi ? Parce que si vous légalisez, vous pensez la façon dont vous allez organiser cette filière, qui a le droit de produire, de quelle manière, comment l'État contrôle. Après, vous pouvez avoir différentes options, c'est-à-dire que vous avez des tenants d'une légalisation qui serait totalement libérale, chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on peut cultiver dans son jardin et vendre sans aucun problème. Vous pouvez aussi réfléchir à légaliser de la même manière que le tabac est légalisé, c'est-à-dire avec un État qui aurait, comme autrefois la CEITA, le monopole de la culture et de la commercialisation, ce qui permet de faire rentrer des devises, mais aussi d'avoir en quelque sorte la main sur un produit qui n'est pas un produit anodin. C'est-à-dire que, en fait, tout le défaut du système actuel, c'est que, puisque le cannabis est interdit, sans aucune réflexion sur la façon dont se passe cette interdiction, ça coûte une fortune en termes de mobilisation des forces de l'ordre. Ça, en effet, ça détruit l'idée même du respect de la loi, puisque tout le monde contourne cette loi dans des proportions véritablement inquiétantes, et ça empêche une véritable politique de prévention dans la mesure où le cannabis n'est pas un produit anodin. Il est quand même nécessaire de le dire. Sauf que ça n'est la véritable prévention pour expliquer à quel point cela peut faire basculer dans la dépression, cela peut déclencher des psychoses chez certains profils très spécifiques. Donc il faut en avoir conscience, il faut que tout cela soit régulé, qu'il y ait une véritable information. Or, elle n'est pas faite puisque c'est interdit. Le produit est interdit, donc on croit qu'on a réglé le problème en interdisant. Donc je pense en effet qu'il serait temps d'avoir ce débat. J'ajoute une dimension. Alors, je pense que si on avait réellement ce débat et si on arrivait à la légalisation du cannabis, il faut assumer un élément. C'est que ça détruit toute une part de l'économie dans certains quartiers. Donc, ça n'est faisable que si les politiques prennent réellement leurs responsabilités et décident enfin de remplacer une économie souterraine et parallèle par une véritable économie, c'est-à-dire en proposant du travail, en proposant de la création d'entreprises, en étant véritablement présent dans des quartiers qui ont été abandonnés au trafic.
Une phrase.
Juste une phrase.
Mot de la fin sur ce débat.
Une phrase en forme de mea culpa. Lorsque j'ai dit dépénalisation, ma langue a fourché. Je voulais évidemment dire légalisation. Et je souscris à ce que vient de dire Natacha Polony.